Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Bruno Sola, fondateur du groupe Business. Bonjour Bruno.
Bonjour Serge.
Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, je m'appelle Bruno Sola, j'ai 44 ans, je suis toulousain. Je suis entrepreneur et ma passion, j'en ai plusieurs, mais c'est ma famille, c'est mes affaires et mes amis.
Très bien. À quel moment tu as flippé?
Écoute, ça a été un concours de circonstances, je dirais, puisque je devais avoir ça au fond de moi, mais j'ai une voiture qui est tombée en panne. J'ai fait 2h30 de voiture avec quelqu'un qui était entrepreneur, Christian Duboué, pour le citer. Ce trajet a changé ma vie puisque je l'ai écouté. Il m'a raconté sa vie d'entrepreneur. Et puis, à la fin du trajet, il m'a dit, mais tu m'as posé beaucoup de questions. Et j'ai dit oui. Il m'a dit, mais tu veux être entrepreneur? Et j'ai dit, bah oui, c'est ça que je veux faire. À partir de là, la petite graine était dans ma tête. Et là, j'y réfléchis pour quelques jours après. Je l'ai rappelé en lui disant, j'ai une idée. Et là, l'aventure a démarré, quoi.
D'accord. Lors de la préparation de ce podcast, tu me disais que tu es devenu entrepreneur sans diplôme. Est-ce qu'il y a des obstacles supplémentaires qu'on rencontre?
Ben oui, il y en a. Il y en a deux. Le premier, c'est toi qui l'as, enfin moi en l'occurrence, parce que quand tu n'as pas de diplôme, tu as naturellement eu un parcours un peu particulier. Donc, en fait, le premier obstacle, c'est la confiance en toi que tu n'as pas, quoi, parce que tu t'es pas construit comme ça et que la société, elle est quand même plutôt faite pour le plan en tout cas professionnel et universitaire, elle te bâtit à travers les diplômes. Donc quand t'en as pas, du coup, tu te sens un peu différent en fait, tu vois. Donc au tout début, c'est dur à ce niveau-là de te persuader que finalement t'as autant de capacités que n'importe qui, voire parfois plus. Et puis le deuxième, c'est celui des autres en fait, le regard des gens. Et c'est vrai que moi, j'ai eu du mal quand même à assumer ça au départ. Moi, à titre perso, dans ma façon d'être et puis aussi dans la façon de le dire aux autres. Au début, je ne le disais pas, en fait. Je crois même que j'ai menti. J'ai menti en expliquant que j'avais des diplômes parce qu'en fait, les gens, d'ailleurs, la plupart des personnes que je rencontrais dans mon business les deux premières années étaient convaincus que j'avais fait une école de commerce. Donc, quand ils me posaient la question, vous avez fait l'école de commerce, vous, monsieur? Eh ben, je disais oui. C'était plus simple parce que finalement, ça les rassurait à eux. Que je sois comme eux, voilà. Mais voilà, c'est les deux trucs atypiques, je crois.
Très bien. Aujourd'hui, tu es le fondateur du groupe Business. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le groupe Business?
Ouais, le groupe Business, c'est une entreprise qui est née à Toulouse il y a quelques années et qui avait pour ambition à l'origine de moderniser la formation professionnelle, de la dépoussiérer. Parce qu'en fait, quand moi j'ai créé Business, à l'époque, on n'utilisait pas le digital et nous, on l'utilisait. La formation avait pas encore fait sa mue au sens ok, on se bouscule et on considère que c'est vachement utile de développer la compétence et que du coup notre job à nous de boîte de formation il est vachement important dans la société. Mais par contre, il faut qu'on se remette en question pour avoir des formateurs on va dire attrayants, engageants, humbles, qui proposent une expérience nouvelle et attractive. Donc voilà, donc à la base, Business, c'est ça, c'était de dire on va bousculer la formation professionnelle parce qu'on est convaincu que c'est utile aux gens, on est convaincu que ça peut changer la performance d'une boîte si les individus sont bien formés. Donc il faut qu'on le fasse mieux et bien et que tout le monde soit content à l'arrivée. Donc c'était ça le projet à la base, c'était moderniser la formation, quoi.
Et aujourd'hui?
Ben écoute, aujourd'hui, on l'a fait. On a fait partie de ceux qui ont engagé une forme de révolution pédagogique, qui ont intégré la révolution numérique dans la formation. Donc, j'ai envie de dire que 13 ans après, on a, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on l'a fait en France, on l'a fait à l'étranger. Aujourd'hui, on a un peu plus d'un million de personnes qui suivent nos formations, qui adhèrent à cette idée-là de ce qu'on appelle la formation nouvelle génération, puisque c'était notre punchline à l'époque. Et surtout, qui se traduit par « on ne forme plus aujourd'hui comme hier ». Et c'est ça qui est super rigolo, parce qu'en fait, cette punchline, elle marchait bien il y a 10 ans et elle continue de marcher aujourd'hui. D'ailleurs, c'est notre leitmotiv, parce qu'on ne doit pas s'endormir, parce qu'en fait, les apprenants, ils évoluent au fil du temps, les générations évoluent, la société, elle évolue. Donc en fait, c'est une perpétuelle remise en question pour se dire « est-ce qu'en 2021, on doit former comme on a formé en 2020 ?» Ben, pas tout à fait. Et encore moins comme il y a 5 ans en arrière et probablement pas comme on formera dans 5 ans. Donc on l'a fait Et on continue de le faire sur la formation. Maintenant, on accélère sur l'éducation. Parce qu'en fait, de la formation professionnelle à la formation initiale, donc à l'éducation, il n'y a qu'un pas. Et on est super content de voir que malgré toute la complexité qu'on a vécue avec le Covid, ça nous a permis finalement d'accélérer la prise de conscience des individus, notamment dans l'éducation, sur la place du numérique dans l'éducation et sur la nécessaire évolution pédagogique dans l'éducation comme on l'a fait dans la formation. Donc une remise en question notamment des professionnels de la compétence dans l'éducation. Donc en gros, on le fait sur la formation, on le fait sur l'éducation et puis on le fait aussi pour l'emploi parce qu'en fait, la formation et la compétence, c'est utile pour l'emploi. Et donc aujourd'hui, on crée des solutions numériques, pédagogiques qui sont utiles aux acteurs de l'emploi et notamment auprès de notre actionnaire avec qui on travaille beaucoup.
Je t'entends parler il y a quelques instants. Les formations de nouvelle génération, ça se définit comment ou comment ça se traduit?
Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la formation de nouvelle génération, mais bon, je vais te sortir trois grandes dimensions. La première, c'est l'expérience apprenant. C'est-à-dire quand on dit on se forme plus aujourd'hui comme hier, c'est qu'on a vu depuis 20 ans, les apprenants ont beaucoup changé. D'abord, la frontière entre la formation et l'information est très fine. Aujourd'hui, le numérique a accéléré l'accessibilité à l'information. Donc, il y a de tout. Et c'est vrai que les apprenants, ils sont habitués à consommer différemment. Donc, tu consommes de manière multicanale. Donc, des podcasts, des jeux, des vidéos. Tu as besoin d'humains aussi. Tu as besoin de te retrouver en face à face avec des gens. Donc, en fait, l'apprenant, lui, il dit, moi, je veux me former ou m'informer d'une autre manière. Donc, nous, on s'adapte à lui. On lui dit, OK, on comprend puisqu'on est là pour t'aider. On est là pour t'apporter du temps et du plaisir dans cette idée-là que le premier pari que tu dois faire dans ta vie, c'est sur toi. Sur toi en tant qu'individu. Donc, ta compétence, ton patrimoine de compétences, il est vachement important. Donc, en gros, le premier focus pour nous, c'est l'expérience apprenant. Donc là, on s'interdit rien. Toute technologie ou toute pédagogie qui font sens à chaque apprenant, eh bien, nous, on se donne la capacité de les utiliser pour être très apprenant-centrique. Un exemple très opérationnel aussi, ce qu'on appelle l'adaptative learning dans le jargon anglo-saxon, c'est de s'adapter à l'apprenant. Donc ça, c'est une première évolution. La deuxième évolution, c'est celle des acteurs de la formation de la compétence. C'est de dire, en fait, on va nous, pour s'adapter à notre apprenant, faire différemment. Donc, on va proposer des nouvelles expériences pédagogiques. Donc, on dit à nos formateurs, avant, un formateur, c'était uniquement un sachant. On avait d'ailleurs une blague qui était super rigolote. En tout cas, elle nous faisait rire à nous, qui était quelle est la différence entre Dieu et un formateur? La réponse, c'est que Dieu se prend pas pour un formateur. Donc, on avait trop de formateurs qui se prenaient pour Dieu. Alors, je dis ça avec beaucoup d'affection, évidemment. Mais blague à part, tous les formateurs qui nous ont rejoints nous ont dit, oui, vous avez raison, il faut qu'on se remette en question. Il faut que nous aussi, on se forme pour être des meilleurs formateurs. Donc là, ça veut dire qu'on a modifié les compétences pédagogiques. On a identifié 50 nouvelles compétences pédagogiques pour le formateur moderne, pour le formateur nouvelle génération, qui seront d'intégrer le digital dans ses parcours, qui sont d'avoir beaucoup plus d'interactivité, de rendre l'apprenant plus acteur, plus auteur. Voilà, donc c'est vraiment une deuxième dimension qui est forte. Et puis la troisième, c'est de placer la formation et le développement des compétences dans l'utilité de celui ou celle qui la sollicite. Je prends un exemple, tout à l'heure je l'ai évoqué. La formation, si elle est utile à l'emploi, elle doit s'adapter au parcours emploi. Si la formation, elle est utile à la performance d'une entreprise, ça doit aussi s'intégrer pleinement dans la performance. Nous, on s'appelle business pour ça à l'origine. Les entreprises, elles nous disaient, la formation, ça sert à rien ou ça marche pas. Et nous, on leur disait, mais si, ça marche parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des salariés et le premier capital d'une entreprise, c'est ses collaborateurs. Donc, nous, on disait, c'est pas la formation qui marche pas, c'est probablement la manière dont on le fait. Donc, on a remis en question le principe avec la manière dont on le fait, nous, que je viens d'expliquer. Et puis, la deuxième, c'est de dire à l'entreprise, impliquez-vous. Impliquez-vous, ça veut dire que quelqu'un qui se forme, il doit le mettre en pratique sur le terrain et doit en obtenir des résultats. Donc, le triptyque, pour nous, c'est bien l'apprenant, l'acteur de la formation, c'est-à-dire le formateur, et quelque part, l'objectif suprême, que ce soit dans l'entreprise, souvent, c'est le développement de l'employabilité d'un collaborateur et la performance in fine. Quant à l'emploi, c'est souvent aussi dans les parcours emploi, ce qu'on cherche quand on se forme, c'est avoir un job, le garder, prendre du plaisir, et voilà. Donc c'est un peu ce triptyque-là, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins, quoi.
Est-ce que tu aurais quelques chiffres sur le groupe business?
On a deux chiffres dont on est vraiment super fiers, on va dire, enfin trois. Le premier, c'est nos collaborateurs. On a un peu plus de, allez, 180 personnes, hommes et femmes, qui sont engagées tous les matins, qui se lèvent en se disant la compétence, c'est vachement utile pour les individus et pour les entreprises, donc on va tout faire pour sublimer l'expérience. Donc ça, c'est un chiffre important pour nous. Le deuxième chiffre qui est très important, aussi important d'ailleurs, voire même peut-être au-dessus, c'est les 1 million de personnes qui utilisent nos outils, qu'ils soient chez nos clients ou on va dire en ligne tout seul. Ça, c'est un chiffre qui est important. Et puis le troisième, c'est le nombre de pays que l'on couvre aujourd'hui où on forme avec nos outils ou avec nos méthodes en ligne ou en blended learning. On a un peu plus de 28 pays aujourd'hui sur lesquels en fait on forme des individus à tout type de sujet, quoi. Donc ça, c'est trois chiffres qui sont vachement importants pour nous. Puis après, il y en a quand même d'autres qui sont le volume d'affaires qu'on fait. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense qu'on sera sur 20 millions d'euros cette année. En tout cas, la trajectoire est bien engagée. Ensuite, on a l'ancienneté qui est la nôtre aussi, puisque business existe, tu me l'as demandé quand est-ce que j'ai flippé, mais existe depuis 2007. Mais on a vraiment pris un virage très, très numérique et très international en 2013, c'était à peu près. Donc voilà. Donc et puis il y a un dernier chiffre qui est important, c'est c'est la bougie qu'on vient de souffler là pour Actual, parce qu'en fait on a ouvert notre capital à Actual Leader Group et donc c'était il y a un an. Voilà. Donc on a un an aujourd'hui.
Félicitations.
Merci.
Bah c'est bien que tu en parles justement d'Actual Leader. Vous avez ouvert votre capital à ce groupe-là. Qu'est-ce que ça vous apporte ou qu'est-ce que ça va vous apporter sur du long terme?
Ben disons d'abord la première chose, c'est pourquoi on l'a fait. On l'a fait parce que je l'ai dit hein, au début, je suis autodidacte, je suis parti seul avec mon ordi. Aujourd'hui, on est quasiment 200 et puis le projet, il a grandi à droite, à gauche, etc. Puis on s'est dit, on était convaincu que ce qu'on faisait, c'était chouette et on s'est dit qu'on avait envie de le faire à plus grande échelle. Donc, quand tu te dis ça, tu te dis, bon, mais comment on fait? Donc, soit tu lèves des sous, soit tu t'associes avec un acteur industriel. Bon, on a fait ce choix-là pour trois raisons. La première, c'est elle est humaine. Donc, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur, notamment pour Samuel Tual à l'origine, puisque Samuel est un acteur qui est très engagé. Quelque part, on se ressemble, même si on boxe pas dans la même catégorie, on va dire, parce que Actual, c'est beaucoup plus gros que nous. Mais pour autant, on se ressemble sur cette conviction-là qu'on a un projet professionnel qui est utile et qui fait sens. Donc, c'est vrai que le coup de cœur humain avec Samuel, c'est que lui, il est très engagé sur l'emploi. Et son job, en tout cas celui de son groupe, c'est de trouver un emploi aux hommes et aux femmes qui en cherchent. Donc, nous, on s'est dit, ça, c'est un beau métier. Ensuite, on s'est dit qu'on pouvait être utile à ce métier. Et donc ça, c'était la deuxième raison. On s'est dit, en fait, nous, on a envie de grandir, on a envie de faire les choses à l'échelle. Et donc, un acteur qui, dans la finalité, c'est trouver un travail aux gens, en fait, on peut lui être utile à deux titres. Un, par la compétence, donc la formation. Et deux, par le numérique, parce que nous, on a une expertise numérique qui est forte chez nous, dans le groupe, avec une Digital Factory notamment, qui s'appelle Jump et qui peut être utile à Actual pour faire son job de manière encore plus grande et encore plus performante, on va dire. Et le troisième point, c'est le nombre de clients. Quand moi j'ai rencontré Actual, on avait 100 clients. Aujourd'hui, en un an, on a gagné quasiment 80 clients, 100 Actual. Donc on a quasiment doublé notre volume de clients en l'espace d'un an parce qu'on a commencé à staffer sur la direction développement, etc. Et Actual, par contre, il y a plus de 20 000 clients. Donc, ça nous donne, si tu veux, un terrain de jeu qui va être bien plus grand dans les prochaines années, puisqu'on est en train de bâtir nos plans stratégiques respectifs, là. Et dans l'idée, c'est que, voilà, on puisse avoir le même terrain de jeu quasiment qu'Actual, avec un peu plus de 20 000 clients. Quand on a 200 aujourd'hui, ça fait de belles raisons pour faire les choses à l'échelle, encore une fois, et développer la modernisation et l'utilité, le sens de la formation partout, quoi, partout et tout le temps. C'est ça l'ambition.
Très bien. Tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut plus former aujourd'hui comme hier. Qu'est-ce qui fait que ça a changé justement et que les personnes n'acceptent plus la même formation d'il y a 10-15 ans aujourd'hui et qu'ils veulent une autre forme de formation?
Il y a pas mal de raisons. Alors, je vais essayer d'en donner deux ou trois, mais la première, quand même, hein, on peut pas passer à côté, c'est le numérique. Le numérique a été une vraie révolution. C'est-à-dire, moi, je sais quand j'ai créé Business en 2007, c'est l'année où l'iPhone est sorti. Et de ce jour-là, quand Steve Jobs a dit qu'on pouvait tout mettre dans un téléphone portable dans sa poche, quand même, globalement, les gens ont suivi, quoi. Donc, ils ont suivi, ils ont commencé à consommer la télé différemment, ils ont consommé la radio différemment, et puis la presse aussi. Donc voilà, donc tous ces médias qui t'informent ont commencé à arriver sur le mobile, quoi. L'Internet a aussi démocratisé les choses et donc de fait, les individus, les entreprises ont commencé à se dire Ça change, quoi. Ça change. Ils l'ont intégré. Ils ont mis plus d'ordinateurs, plus de téléphones portables auprès de leurs collaborateurs. Et donc, partant de là, nous, on s'est dit, on peut pas passer à côté. Après, on trouvait que le numérique, ça avait beaucoup de vertus pour la formation, parce que déjà, ça pouvait rendre l'apprenant acteur de sa formation. Parce que par définition, tu lui donnes la main. Et puis, l'interactivité que tu crées, notamment par le clic, elle est vachement sympa, parce que l'apprenant, il se dit, là, je suis pas spectateur, en fait. C'est moi qui suis dans le jeu. La révolution numérique, ça a été un premier volet qui est majeur et qui a pas pris une ampleur massive sur le secteur au début. Certains l'ont pris, nous, d'autres, qui sont notamment des pure players du numérique que moi j'ai vu grandir avec nous ces 7-8 dernières années. Et puis le Covid a accéléré les choses pour on va dire, démocratiser le numérique partout. Ensuite, la deuxième révolution, elle est pédagogique. Elle est pédagogique parce qu'en fait, d'abord, la révolution numérique, elle a eu un impact sur les entreprises. C'est-à-dire que les gens, si tu prends nous, on a formé beaucoup de salariés dans des entreprises, je pense notamment à la banque et assurance, qui ont modifié leur modèle de distribution à cause ou grâce au numérique. Avant, un conseiller bancaire, il recevait son client en agence. Aujourd'hui, le client, il pousse la porte d'Internet, du téléphone, etc. Donc, il a fallu former, si tu veux, les collaborateurs. Donc, je pense à des commerciaux, je pense à des managers, je pense à des chargés de relations clients, et notamment, parce qu'en fait, les compétences qu'ils avaient avant, qui marchaient, elles ne marchaient plus tout à fait au téléphone où la proactivité n'était pas la même. Donc, en gros, ça a changé la donne. Il y a eu une accélération de la nécessité de former les individus parce que le monde du business avait changé, parce qu'on ne pouvait plus vendre, conseiller ou manager aujourd'hui comme hier. Donc ça a été un accélérateur où on a dit, OK, il faut reformer les gens, il faut reskiller. Et puis le troisième point qui est important aussi, c'est les compétences comportementales. Parce qu'en fait, les compétences, ce qu'on appelle les hard skills, elles ont évolué avec les révolutions numériques notamment. Mais par contre, les soft skills, elles ont toujours existé en fait. Le développement personnel a toujours existé, mais c'était pas aussi plébiscité aujourd'hui qu'hier, ouais. Enfin, hier qu'aujourd'hui, en tout cas, plutôt. À un moment donné, on a pris on a pris un check-up, là, et on a dit, bon, on va mettre le meilleur de notre formation nouvelle génération. Tout ce qu'on a fait pendant 10 ans, là, qui rend la formation plus sympa, plus attractive, les jeux, les podcasts, l'interactivité, etc. On va mettre les soft skills dedans. On va prendre une petite pointe de Netflix, parce qu'on a vu que Netflix avait quand même bien bousculé les codes de la communication. Et là, on a sorti la plateforme On va se former, qui aujourd'hui est une plateforme qui permet de se former en regardant des séries, en faisant des jeux et sur des compétences comportementales, sur des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir comme ça avant. Pour se former au soft ou au développement personnel, il te fallait un coach qui coûtait 1 500 € par jour. Donc aujourd'hui, je dis pas qu'il le faut pas, mais c'est plus difficile de démocratiser les soft skills si t'as pas ça. Donc voilà, quelque part, le numérique et la formation plus attractive, ça a permis de démocratiser l'accès à la compétence. Et cet accès à la compétence qui est vachement utile, puisque par exemple, si on prend les softs, il y a 46% aujourd'hui des DRH qui disent recruter en priorité sur les compétences comportementales. Donc, c'est quand même vachement important.
Et tu le disais lors de la préparation de ce podcast, un de vos enjeux aussi, c'est de mieux impliquer les parents dans la formation.
Oui, en fait, ce que je te disais, c'est que on s'est engagé sur la formation depuis 13 ans. On continue, on accélère, on le fait maintenant, parce que business, c'est trois choses. Hein, c'est on forme, on digitalise et on modernise. On forme, donc comme je l'ai dit, on digitalise parce qu'il y a plein de boîtes de formation qui sont venues nous voir en nous disant « on voudrait faire comme vous ». Donc on leur a créé un outil qui s'appelle Stories et qui leur permet, on va dire, de créer et de diffuser leur contenu de formation nouvelle génération avec tout notre arsenal quelque part. Et on modernise parce qu'en fait, on a aujourd'hui compris qu'il fallait accélérer la modernisation de l'appareil de formation, les régions le font, l'État le fait, et donc nous, on est un acteur crédible et légitime pour le faire, pour accompagner la formation des formateurs, la mise à disposition d'outils de Learning Content Management System, et ensuite d'accompagner en conseil. Bon, ça, c'est sur la formation. Maintenant, on se dit, on continue de le faire sur la formation professionnelle, mais l'éducation, c'est juste à côté. Et là, ce qu'on a vu pendant le Covid, notamment, ça a été... les fractures numériques et pédagogiques, elles étaient connues, mais elles n'étaient pas vues de manière aussi précise. Et on a vu à la fois des établissements réagir de manière remarquable et puis d'autres qui ont été beaucoup plus en difficulté. Donc nous, on a décidé aujourd'hui, et on ne va pas le faire seul, puisque les acteurs de l'exécutif vont engager, l'État va engager des choses, Canopé va engager des choses. Et donc, on a décidé de mettre toute notre expérience depuis 13 ans dans la formation des adultes au profit des acteurs de la compétence, donc des professeurs, concrètement, des écoles et des élèves. Et donc, c'est vrai qu'on est convaincu aujourd'hui qu'il faut moderniser l'appareil d'éducation. Et pour le moderniser, c'est créer une forme de réconciliation entre, selon moi en tout cas, des enfants qui doivent prendre demain plus de plaisir à aller à l'école. Et pour ça, ben, y a plein de choses à faire, que ce soit redonner du sens à l'école, mais aussi redonner du plaisir dans les matières qui sont enseignées. Un point suprême pour moi, c'est les professeurs, donc ce fameux plus beau métier du monde qu'on a envie qu'il reste aujourd'hui. Ben, il faut qu'on donne plus de moyens au corps professoral pour qu'ils aient des nouvelles méthodes pédagogiques et des nouveaux outils numériques et pédagogiques pour permettre finalement de délivrer une expérience encore plus sublimée quelque part parce qu'ils sont clés. C'est eux qui vont donner le là et c'est eux qui vont donner envie. Puis après, il y a les parents. Pour avoir discuté, bon, moi, je suis papa de trois enfants, hein, donc je suis aussi parent. Mais quand tu discutes autour de toi, on est finalement tous d'accord pour dire « Waouh, il faut changer les choses parce que le monde a bougé, il faut que l'école s'adapte en fait. » Parce qu'on a peur d'un truc, c'est que nos enfants, dans 10 ans, 12 ans, 15 ans, ils soient face à un chômage massif parce qu'on les forme à des choses aujourd'hui qui seront pas utiles demain, quoi. Donc, en fait, on a besoin de faire cette réconciliation et les parents, on a besoin de les aider face à la révolution numérique. Ils sont parfois un peu perdus. Ils l'utilisent eux, ils voient leurs enfants qui sont hyper aliénés là-dessus. Donc, il faut qu'on les aide à être, on va dire, plus matures sur le numérique. Et puis après, il faut qu'on les aide à jouer un rôle dans l'éducation de leurs enfants et avec l'école et avec les enseignants de manière finalement plus cohérente. C'est-à-dire, quelle est la place d'un parent dans le suivi de l'éducation de ses enfants à la maison, sur les devoirs, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, c'est difficile d'en parler, mais sache que je suis en train de faire une enquête Ipsos là, où on va interroger les Français face à l'éducation. Donc, on va interroger des parents, des enfants, des profs, etc. Et surtout, on remettra à la rentrée, là, je retournerai à Matignon et à l'Élysée pour proposer des idées, modestement, mais proposer des idées pour continuer de bousculer, d'accélérer la modernisation de l'appareil d'éducation. Donc, en fait, on a envie de faire dans l'éduc ce qu'on a fait dans la formation, et en tout cas de faire partie de ceux qui vont être utiles à ce projet-là, quoi.
C'est quoi les compétences qu'on devrait enseigner en urgence pour le monde de demain?
Ben c'est une question qui est vachement, elle est vachement importante, ta question, et du coup, c'est pas facile d'y répondre. Mais c'est déjà super bien de se poser la question. Tu vois, pour moi, dans ta question, il y a la bonne question. C'est-à-dire déjà de se dire, est-ce qu'on doit enseigner aujourd'hui les mêmes matières pour créer le monde de demain avec nos enfants? Moi, j'ai plutôt la conviction aujourd'hui qu'il faut avoir une réflexion là-dessus. J'ai pas de dogme, mais je dis, est-ce que les matières premières d'hier sont celles d'aujourd'hui? Est-ce que les matières secondaires d'hier sont ceux d'aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des matières qui n'existent pas aujourd'hui dans l'enseignement qui pourraient être matières premières ou matières secondaires? Sans te parler du fait que, quand je dis aujourd'hui, c'est aussi se poser la question pour demain. Donc, quand tu poses la question, en tout cas de mon point de vue, j'ai l'intime conviction qu'il faut se poser la question et que, de fait, dans la question, il y a la réponse qui est de dire, ben non, on a des matières premières d'aujourd'hui qui pourraient être des matières secondaires. On a peut-être des matières secondaires qui seraient des matières premières, etc. Donc ça, c'est de manière très macro. Ensuite, moi, je dis aujourd'hui que il y a des matières, en effet, qui pourraient intégrer, en tout cas, une plus grande importance à l'école. Bon, je vais dire des choses assez simples, mais tu vois, quand tu prends l'écologie, par exemple, moi, j'ai 44 ans, je suis d'une génération où il y a 20 ans en arrière, ça choquait personne de jeter un truc dans la rue, y compris nous. Et puis aujourd'hui, déjà, si tu le jettes, tu regardes autour de toi et tu te dis que tu fais quelque chose de très mal. Et puis quand tu rentres chez toi, tu te dis vraiment que tu as fait un truc de très mal. Bon, mais ça a pris un peu de temps. Aujourd'hui, je pense que nos enfants, ils sont un peu mieux dans leur basket là-dessus. Mais si on pense que c'est eux qui vont demain vraiment arriver à inverser la tendance, cette tendance qui fait peur, quoi, on a l'impression que c'est irréversible, ben, tu te dis que c'est une matière première. Ensuite, quand on dit, par exemple, les compétences comportementales, je le disais tout à l'heure, la confiance en soi, la résolution de problèmes, l'intelligence émotionnelle, tous ces sujets-là qui sont vachement importants dans le monde du travail, moi, je pense qu'il faut les créer et les constituer les premières années de sa vie. Un enfant qui a confiance en lui, moi, je l'ai vécu à l'inverse, hein, parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais partie des gamins qui se planquaient à la récré quand on était appelé à la vie scolaire. Et en fait, l'école, ça me faisait peur, quoi. Ça me faisait flipper, comme tu dis, tu vois, parfois. Voilà, donc je pense, par exemple, les compétences comportementales, elles ont vraiment toute leur place. Je pense que le numérique, aujourd'hui, on est super mal à l'aise, finalement. On a des enfants qui sont des digital natives, ils sont nés avec ça. Ils sont à la fois super à l'aise et super omnicanal, on va dire, en utilisant le numérique. Et à la fois, on a vachement peur parce qu'on se dit, mais ils passent leur vie là-dedans, ils sont coupés du monde, ils sont pas capables de rencontrer un petit copain ou une petite copine autrement que sur des applications mobiles. Bref, tout ça, c'est de se dire, ouais, le numérique aujourd'hui, il faut le mettre, pour moi, au cœur de l'éducation, mais il faut redonner du sens à tout ça. Donc comme ça, si je fais un peu un teasing, notamment de mon livre blanc qui sortira en septembre, même, c'est un sujet que moi je vais aborder. C'est un sujet que j'aborde en se disant, ok, c'est quoi les nouvelles matières qu'on peut mettre. Tu vois, si je prends l'anglais par exemple, on est tous très déçus que la France soit un des pays les plus en retard sur l'apprentissage des langues. Je l'ai vécu parce que j'ai fait du learning by doing, j'ai appris l'anglais sur le terrain comme un autodidacte. Et puis du coup, je me suis dit, tes enfants, tu vas leur apprendre l'anglais tout de suite, quoi, à 2 ans, 3 ans. Mais aujourd'hui, mon fils, il a 12 ans, il est bilingue, tu vois. Donc en fait, je me dis que ça, c'est des sujets où, voilà, je suis pas certain. Les maths, je pense que c'est vachement important, mais j'ai bien peur que les algorithmes soient meilleurs que nous. En revanche, penser, écrire, lire, c'est des choses qui sont vachement utiles, en fait, tu vois. Donc voilà, moi, je suis quand même pour un Big Bang de l'éducation. Un Big Bang positif, assumé, responsable, sans flip, mais je pense qu'il faut le faire aujourd'hui. Donc, il faut se mettre autour de la table. Et je suis pas le seul à le penser, puisque des grands acteurs aujourd'hui, on va dire, sont dans ces sujets-là. Et on espère que le président de la République, celui d'aujourd'hui ou de demain, fera de l'éducation son thème numéro un pour la prochaine campagne présidentielle. En tout cas, moi, c'est ce que je dis. S'il y avait deux combats majeurs, c'est l'éducation et l'écologie. Et l'emploi, évidemment, puisque les trois sont liés pour demain, à mon avis.
Une phrase que je vais ressortir de ce que tu viens de dire, que les jeunes d'aujourd'hui sont des digital natives. Et pourtant, on s'est rendu compte quand même pendant cette crise du Covid que certains n'étaient pas du tout à l'aise avec une souris, un ordinateur, alors que quand tu leur passes une tablette ou un smartphone, c'est limite, ils ne savent pas lire, écrire ni parler, mais par contre, t'inquiète pas, ils savent utiliser un téléphone. Est-ce que tu penses que cette crise du Covid, elle a accentué, voire creusé encore plus la fracture numérique ?
Le constat que tu fais, il est juste, mais il n'est pas que d'aujourd'hui. Moi, je sais, tu vois, il y a quelques années, peut-être 6 ans, 7 ans, dans une banque, on avait fait une étude auprès de 1000 collaborateurs, de tout âge confondu, et on avait 17% des gens qui maîtrisaient le scroll de la souris. C'était pas beaucoup sur un outil, finalement, où tu te dis que c'est quotidien, quoi. Bon, donc je sais pas de quand ça date, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une différence, elle n'est pas facilement explicable, entre l'utilisation du numérique dans un environnement professionnel de l'utilisation numérique à titre personnel. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut mettre du numérique, on va dire, au cœur du pro dès le plus jeune âge, et donc typiquement à l'école, où on n'utilise pas assez le numérique à titre éducatif. Typiquement, on a distribué des tablettes dans nos écoles, mais on a encore nos enfants qui ont des cartables qui pèsent 12 à 20 kilos et des tablettes qui sont enfermées dans les placards. Bon, donc ça, il faut qu'on arrive à résoudre ça. Ensuite, le Covid, c'est vrai que ça a eu un formidable effet, puisque de fait, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à utiliser le numérique pour tout, pour passer ses commandes de fruits et légumes, pour commander à manger, pour recevoir un cours, pour communiquer avec les grands-parents, etc., etc. Donc en fait, selon des études, notamment je crois que c'est McKinsey qui a sorti une étude récemment là, qui met en lumière ce qu'on appelle les digital convertis, c'est-à-dire des hommes et des femmes sur la planète qui n'utilisaient pas le numérique dans leur quotidien et qui depuis le Covid l'utilisent. On est sur des chiffres qui sont très difficiles à mesurer, mais selon l'étude McKinsey, c'est entre 30 et 60% des habitants de la planète qui n'utilisaient pas le numérique avant et qui l'utilisent depuis le Covid, dans leur quotidien en fait. Moi aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a... On n'est pas encore sorti totalement du Covid, mais je pense que ça serait nécessaire d'avoir une prise de recul, de voir quels sont les bénéfices de cette accélération de la consommation numérique à travers la pandémie et quels en sont les risques aussi. Et donc, pour ça, il faut avoir une analyse, des enquêtes, des études, peut-être des assises ou autres, mais qui vont permettre d'analyser. Ce qui est certain, c'est que le numérique était ultra présent dans la vie des gens avant, il l'est encore plus aujourd'hui. Et pour autant, on est tous assez inquiets. Moi, j'ai lu un bouquin, je crois que je te l'avais dit, qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Puis, derrière votre écran de fumée, qui est sur Netflix, c'est un reportage qui met en lumière la fracture numérique avec les risques d'ultra-consommation, hein, d'être aliéné par le numérique. Je ne parle même pas de cybersécurité ou de cybercriminalité, puisque là, pour le coup, on est encore des bébés, quoi. Les gens ne sont pas du tout conscients. On a des gens aujourd'hui, la plupart des individus en France, ont refusé l'application Covid qui était censée sauver la vie. Et pour autant, délivrent toutes leurs informations à toutes les GAFA, Instagram, à Google, etc., à FaceApp, puisqu'à partir du moment où tu as un iPhone et que tu as une reconnaissance faciale, de fait, ton visage numérique t'appartient plus, etc., etc. Donc, mon message, ça serait de dire, il faut développer la maturité numérique des individus pour que l'homme reprenne le dessus sur la machine. Et pour reprendre le dessus sur la machine, ça veut dire que aujourd'hui, on n'est pas tous conscients, et c'est là où d'ailleurs la civilisation du poisson rouge nous le met en lumière, et le reportage que j'ai évoqué, on n'est pas tous conscients des effets neurologiques que peut avoir le numérique si tu n'en es pas conscient. C'est-à-dire typiquement, recevoir une push notification, si toi et moi, quand on est en train de discuter, il y a un bip-bip sur mon portable, de fait, il y a mes neurones là, qui vont s'activer, qui vont se dire « j'écoute plus Serge, j'ai absolument besoin d'aller voir mon portable ». Et quand tu sais comment ça marche sur ton cerveau, déjà, c'est mieux. Tu te dis, OK, je sais que c'est ça. Je sais que là, j'ai un petit bonhomme qui est en train d'essayer de me dire, va dans ton portable. Ben non, je vais lutter contre ça. Donc, la maturité numérique, c'est upgrader la connaissance du numérique de la majeure partie des individus, des plus jeunes aux moins jeunes, quand on parle du cyberharcèlement, par exemple, etc. Donc, pour moi, le vrai enjeu, c'est la maturité numérique. Aujourd'hui, on manque de maturité. On est trop poisson rouge. Il faut beaucoup plus de monde au-dessus du bocal pour être capable d'être très confort, très à l'aise avec le numérique. On ne pourra pas faire machine arrière, on ne pourra pas vivre sans numérique, mais il faut reprendre toute la place, et une place humaine avec un grand H. Et donc pour ça, on y revient. Quand je dis « learning is a gift », la compétence est un privilège, la connaissance est un privilège, donc il faut maintenant aider les individus à être mieux, plus forts sur la connaissance des enjeux du numérique, parce que moi, je fais partie de ceux qui en ont bénéficié quand même, hein. Si tu regardes les startups et les scale-up et toute la nouvelle économie, le Covid était un accélérateur de business pour nous, il faut le dire. On doit rendre aux individus ce que le numérique nous a donné. Ça nous a permis de développer nos business. Mais aujourd'hui, moi, je dis stop, assez. Il faut vraiment éduquer et rendre les individus plus forts dans la connaissance et dans la compétence numérique à tout âge. Moi, je dis aujourd'hui que le savoir, c'est le pouvoir. Quand tu sais comment marche le numérique, de fait, t'es vachement plus à l'aise avec ça. Le nombre de parents que je croise aujourd'hui qui ne savent pas rentrer dans un téléphone portable pour rendre les profils des réseaux sociaux de leurs enfants privés, d'être vigilants sur l'identité numérique. Moi, je suis par exemple pour la fin de l'anonymat numérique. Parce qu'évidemment, c'est hyper facile de t'appeler Bruno33 et de pouvoir faire ce que tu veux sur les réseaux, tu vois. Mais ça, je pense que cette fracture numérique que t'évoques, elle est plus dans les outils. Elle n'est plus dans l'accès aujourd'hui, elle est dans la connaissance et dans la conscience des individus des enjeux positifs et négatifs du numérique. Je donne un dernier exemple là-dessus. Bon, moi, j'ai été frappé par le manque de maturité numérique des États. D'ailleurs, si tu regardes, ils sont aussi fragiles que les individus. Ça, c'est un sujet qui n'est pas neutre. Et c'est pour ça, par exemple, que moi, je me suis lancé dans la création d'écoles avec Samuel Tual et Actual. On lance Holberton School, qui est une école américaine. Je fais un peu la pub là, mais c'est pas qu'une école. C'est pas qu'une école numérique. Elle forme des développeurs. Elle leur garantit un emploi parce qu'on fait ça avec Actual. Mais en plus de ça, elle est signataire de la charte Holberton-Turing. Et la charte Holberton-Turing, c'est qu'en gros, on va former nos codeurs-développeurs qui ont un gros pouvoir, hein, parce que quand tu sais créer du numérique, tu as du pouvoir. Mais on va les former pour qu'ils utilisent ce pouvoir à des fins positives. L'idée de la charte Holberton-Turing, c'est de s'engager sur un numérique beaucoup plus écologique, et surtout un numérique beaucoup plus responsable. C'est-à-dire quand tu es développeur, que tu sortes chez Holberton, tu utilises ta création de code pour créer un monde meilleur et pas un monde plus négatif. Typiquement, tu ne seras pas cybercriminel, par exemple. C'est ça que j'appelle la maturité numérique. On vient de vivre 20 ans de révolution numérique. Maintenant, il faut dire stop, on se pose, c'est bon, on a tous un téléphone portable, on utilise tous le numérique, il faut tous qu'on en connaisse vraiment les tenants et aboutissants pour être plus fort.
C'est le prochain défi, tu penses, de la formation et de la modération pour demain ?
Ouais, le prochain défi, c'est une révolution culturelle face au numérique. C'est reprendre un pouvoir culturel et faire du numérique simplement un moyen d'accès à l'intelligence des hommes et pas un moyen de zombie comme on est aujourd'hui où on est très poisson rouge. Il n'y a qu'à regarder dans la rue aujourd'hui le nombre de gens la tête dans leur portable. Je crois qu'il y a même des morts des fois. Donc il faut juste lever la tête et dire le numérique, c'est un outil qui me permet de communiquer, mais pas basta quoi, pas plus.
Merci beaucoup. Dis-moi Bruno, avant de se quitter, ton prochain grand flip, c'est pour quand ?
Déjà, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, j'ai sauté en parachute. Ça, c'était un vrai flip, tu vois. Et je voulais pas le faire parce que c'était mes équipes, on avait organisé ça pour toute la team chez moi. Je m'étais fait une rupture des ligaments croisés. J'étais super content, je me suis dit, t'as une excuse. Mais bon, au final, le médecin m'a dit, Bruno, tu sautes. Donc, j'ai sauté. Ça, c'était un grand flip. Le deuxième, c'est que ces derniers temps, grâce à mon rapprochement avec Actual, ça m'a permis aussi de prendre un peu plus de hauteur, on va dire, sur les affaires. Donc, j'ai beaucoup de gens qui m'aident à développer la boîte aujourd'hui. Et donc, du coup, ça me permet aussi de flipper avec d'autres. Donc, typiquement, j'ai investi dans deux, trois entreprises auxquelles je crois. Je pense à Iconoclast, d'ailleurs, que je salue. Je pense à Beeping, que je salue. Puis surtout, ça m'a permis de me lancer dans d'autres aventures. Donc, Holberton, j'y crois à fond. C'est un projet qui est génial. Et je pense qu'avec Samuel, on peut en faire un truc super. Et après, dans les prochains grands flips, moi, je suis entrepreneur. Donc, j'ai un peu envie de me poser là pendant un an là, parce qu'on a quand même beaucoup de sujets, beaucoup de projets dans la boîte. Mais tu vois, je me suis pas posé longtemps parce que j'ai décidé d'aider un club de sport là à se développer, donc qui s'appelle les Spacers. Donc je suis devenu président des Spacers il y a quelques jours là. C'est un super projet qui est très cohérent parce qu'en fait le volley c'est un sport universel, c'est le premier sport universitaire au monde en France. Et moi je suis dans la ville universitaire par excellence à Toulouse. Et donc voilà, donc on a envie de tout ce qu'on va faire sur l'éducation nouvelle génération, ben on a envie de le partager de manière sportive et dynamique. Donc, le volley, c'est chouette. Et voilà, donc c'est sans doute, en tout cas, pour les prochains mois, c'est celui-là, mon prochain flip, en plus de tous les autres. Et vu que je suis un passionné, bah, voilà, je ne m'interdis aucun flip, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Bruno, d'avoir participé à Flip.
Bah, écoute, c'est moi qui te remercie, Serge. C'était très, très agréable. Et puis, j'espère que ça le sera aussi pour ceux qui vont nous écouter par dizaines, par centaines, par milliers, par millions, peut-être, je ne sais pas. On verra.
Mais bien entendu. Merci beaucoup d'avoir écouté Flip et nous on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand ?